Carrefour.
Quand vous me dites «
Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, le week-end des experts.
Ceci est un programme de bricolage.
7h-8h, votre maison.
Ce programme est agréé par le marteau, le mouvement amateuriste de réparation de tous les objets.
François Sorel, Christian Pesset.
Le week-end des experts, merci d'être là et après le jardin et avant de retrouver la forme et la santé. Et puis, invité exceptionnel dans la vie numérique tout à l'heure, ce sera la directrice de la communication de Facebook qui sera avec nous pendant une heure entre 9h et 10h. Avant tout cela, et jusqu'à 8h, c'est la maison. Christian PC est là, bonjour.
Mais oui, je suis là, bonjour mon cher François.
Bonjour Christian PC.
Vous êtes tout bronzé là déjà, hein, c'est pas la peine que vous partiez en vacances.
Bah écoutez, oui, mais en revanche, je ne vais pas vous retourner l'appareil. Il faut absolument que vous aussi vous bronziez un peu.
Un petit peu.
Et vous allez aller dans le sud, qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances mon cher Christian?
Eh bien écoutez, je pense que cette année je vais rester un petit peu en Normandie.
Très bien.
Donc, il fait tellement beau.
Donc vous n'allez pas bronzer finalement?
Bah si, vous allez voir.
Ah oui, c'est vrai qu'on peut attraper des coups de soleil hein, en Normandie.
En ce moment, oui.
C'est rare, mais ça arrive. Christian, oui. Au menu de cette heure dédiée à la maison, tout à l'heure vous nous parlerez de votre coup de cœur. C'est une application et un site pour gérer le transfert de tous ses abonnements.
Oui, c'est très sympa, ça permet de tout regrouper. Bon, à la clé il y a des propositions commerciales, mais c'est gratuit. Et donc on verra que c'est vraiment très très utile, ça permet de ne rien oublier, puis de ne pas être embêté par toutes les tracasseries administratives de transfert des dossiers et des contrats.
Notre dossier de ce samedi matin est d'actualité, il fait
évidemment
chaud. Et comment fait-on pour bien conserver les aliments à la bonne température?
Voilà, là on est dans une période sensible, il nous faut de bons appareils de réfrigération, de congélation, et évidemment ils peinent les pauvres, ils ont une surcharge de travail.
Mais oui.
Et on va voir avec Célestin Melloul qui est responsable formation chez Liber qui est une grande marque de produits de ce type, et pas seulement parce qu'ils font même des pelleteuses, hein, donc, mais c'est pas la même division je crois.
Ah oui, parce que là si on commence à parler des pelleteuses, quoi que dans la maison on pourrait, mais
on a besoin. Hein.
32-16, l'appli RMC Direct Studio, vous pouvez nous joindre à tout moment, vous êtes les bienvenus bien sûr, mais pour débuter, nous allons retrouver vos questions au 32-16 et Pierre est avec nous. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre.
Bienvenue bonjour. Pierre sur RMC.
Ouais, ça fait longtemps que j'écoute votre émission et donc comme on est en train de refaire une maison en Provence, et puis tiens, c'est eux qui vont nous aider à résoudre ce problème.
Allez-y, on va voir, on va essayer. J'espère. Dites-nous, quel est votre souci ou vos soucis?
En fait, c'est une maison qui était construite en 1969, et tout béton partout, mais isolation pas bien, avec une chaudière au fioul et des radiateurs en fonte. Donc on va refaire l'isolation et on se posait la question au niveau du chauffage et on était très attiré par mettre une pompe à chaleur RO pour pouvoir.
Alors attendez, dites-moi déjà ce que vous allez faire comme isolation.
On va mettre au minimum 5 cm.
De quoi ?
Sur tous les murs extérieurs.
5 cm de quoi ?
Bah, du produit, ce que j'ai demandé à notre maçon, le produit le meilleur, le plus efficace qu'on puisse trouver dans le minimum d'encombrement.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Faudrait s'occuper de ça. Hein. Quand vous achetez une voiture, vous savez quel est le moteur qu'il y a dedans. Hein. Donc, si vous me parlez de 4 à 5 cm, il n'y a pratiquement aujourd'hui aucun isolant traditionnel qui permette d'obtenir des résultats suffisants avec 4 ou 5 cm. Si on vous dit mettre de la laine de verre, de la laine de roche, de la ouate de cellulose, du polystyrène, 4 à 5 cm, c'est rien. Donc, il n'y a qu'une seule chose en 4 à 5 cm qui peut commencer à donner quelques résultats, c'est le polyuréthane. Donc, ça m'étonnerait que votre maçon mette du polyuréthane, notamment du polyuréthane projeté. Il fait ça à l'intérieur ou à l'extérieur?
À l'extérieur, on s'est renseigné, c'est pas faisable parce qu'il faut refaire les fêtières du toit, enfin parce que ça
donc intérieur, Alors, dites-vous que sur du traditionnel, c'est-à-dire les isolants fibreux classiques, si vous n'avez pas 10, 12, voire 15 centimètres, c'est comme si vous ne faisiez rien. Maintenant, vous êtes dans le midi, donc l'isolation au froid n'est pas quelque chose de forcément essentiel. Bon, donc prenez ces renseignements. Et alors après, quelle est votre question? C'est sur clim reversible ou quoi?
Voilà, en fait, donc le choix d'air fuel, au revoir, et en fait, le mieux, ce qu'on trouvait top, c'est de mettre une pompe à chaleur RO.
RO, mais ça veut dire qu'il va falloir changer vos radiateurs, ou bien que vous fassiez un plancher chauffant rafraîchissant. D'accord?
Bon, le plancher, on oublie. On ne peut pas le faire.
Le plancher, on oublie. Donc, de toute façon, en réversible. Alors, à ce moment-là, vous allez passer en réversible, non pas RO, mais RR. Avec donc des multisplits, c'est-à-dire des unités au niveau du plafond, ou des ventilos convecteurs, comme on dit, qui peuvent se mettre. Mais oubliez vos radiateurs.
Ah bon, pourtant c'est ce qui semblait plus simple de changer.
Simple, mais ça ne marchera pas. Parce que les radiateurs, ça marchera un peu en version chauffage, mais pas du tout de toute façon en version rafraîchissement.
Donc on cherche pas à faire rafraîchissement.
Bah donc il y a pas besoin qu'elle soit réversible alors.
Non, moi je cherche.
J'ai cru comprendre. Moi
j'ai pas de mot prononcé le mot réversible, mais j'ai pensé le mot pompe à chaleur.
Oui, mais pompe à chaleur, là où vous êtes, ça vaudrait le coup peut-être de la mettre. Ça sera le plus économique et le plus efficace, c'est de la mettre en réversible, c'est pour ça que j'avais pensé là où vous étiez, en réversible, et à ce moment-là, c'est une RR. Et ça sera le plus économique et le plus simple. Vous dégagerez vos radiateurs, et puis si vous voulez un peu de complément, pour les périodes où, je sais pas, où vous êtes où dans le midi?
À Draguignan.
Bon, alors à Draguignan, on oublie les périodes froides, hein, parce que vous m'auriez dit, je suis sur les côtes du Ventoux, je vous aurais dit, ah, attention, mais donc il n'y a pas une pompe à chaleur, je vous dis, RR reversible, me paraît, moi, le plus simple et le plus efficace.
D'accord.
Ah oui.
Voilà.
J'ai l'air de vous décevoir.
Ben oui.
Oui, ça me déçoit parce que je décide de ne pas pouvoir garder les radiateurs qui existent.
Et à ce moment-là, les radiateurs, vous prenez une pompe à chaleur effectivement RO, mais pas avec ces radiateurs, pas les gros radiateurs en fonte. Il vous faudra des radiateurs en tôle, qui vont avoir une capacité de transmission du circuit, on va dire d'eau pour simplifier, à basse température. Parce que si vous êtes obligé d'envoyer pour vos gros radiateurs en fonte de l'eau, il va falloir une pompe à chaleur haute température, et là, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est ma position. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur l'AFPAC, AFPAC, Association Française de la Pompe à Chaleur.org.
D'accord.
Ok.
Très bien.
Voilà Pierre. Et après Pierre, maintenant, les amis, attention, c'est le conseil de l'expert béton de Christian Pesset.
RMC, votre maison.
Eh ouais.
Le conseil béton
eh oui.
De Christian Pesset.
Attention, ouais. Ça ne rigole pas.
Et puis attention, hein, c'est quelque chose qui est tombé là, je sais pas si c'est un bloc de béton, fais attention
quand
même. C'est un
peu le Christian Rocky de...
Absolument.
Hein, c'est ça. Hein.
Oui.
Alors attention, Christian, bien choisir sa peinture pour la déco de la maison.
Mais oui, parce que c'est l'été qu'on décore sa maison.
Vous vous transformez un peu en Valérie Damido.
Absolument.
C'est ça?
Non, s'il vous plaît.
Quoi, s'il vous plaît?
Restez courtois.
Elle est bien sympathique.
Mais elle est très sympathique.
Bon, très bien.
Bah, bien sûr, évidemment.
Alors.
Bon, donc, c'est en été qu'on se lance dans les travaux de peinture. Et il y avait même une tradition, elle est peut-être encore dans certaines régions, où on se réservait une semaine pour repeindre l'intérieur, poser du papier peint, etc. Alors, traditionnellement, on opposait la peinture à l'huile et la peinture à l'eau, vous savez. Autrement dit, les peintures solvantées et les peintures en phase aqueuse. Ça fait plus savant, mais c'est la même chose. Alors, les peintures solvantées, eh bien, la plus connue, c'était et ça reste la glycéro. Elles ont progressivement disparu en intérieur, en tout cas, en raison des émanations qu'elles dégagent et l'application comme au cours de leur séchage. Ce sont les fameux COV, les composants organiques volatiles, qui sont dégagés très fortement par les solvants pétroliers.
Mm-hmm.
Il vous a pas échappé que la peinture, la glycéro, par exemple, le solvant, c'est du white spirit.
Ah oui, le white spirit. Ah,
d'accord.
Oui.
Donc, et le white spirit, quand on le respire, hein, ça dégage les naseaux. Alors, on prend des peintures en phase aqueuse parce que, évidemment, elles émettent beaucoup moins de COV. Elles en émettent quand même un peu, hein, mais elles en émettent beaucoup moins. C'est une directive européenne depuis 2010 qui va conduire à l'éradication totalement des peintures solvantes.
Et en plus, solvantes. Ça diffuse des COV bien après la pose de cette peinture.
Pendant des décennies.
C'est incroyable.
Ça continue toujours. Alors, deux familles de peintures à base aqueuse, les vinyliques. Alors, c'est en général celles qu'on utilise, vous savez, pour le plafond. C'est des peintures assez basiques. Et puis, les acryliques, beaucoup plus faciles à appliquer. On les trouve dans une gamme très importante de peintures, de couleurs, bien plus d'ailleurs que les glycéros. Elles sont maintenant lavables, certaines sont lessivables, elles sèchent vite et puis surtout elles sont sans odeur. Elles s'appliquent facilement à la brosse, c'est-à-dire au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Et puis surtout elles sont beaucoup moins chères que l'étaient les peintures solvantées. Encore que la peinture, ça soit toujours très cher. Et n'oubliez pas que généralement le prix est gage de qualité, comme dans d'autres domaines, mais principalement dans celui-là. C'est particulièrement vrai. Alors, on en trouve des mats, des satinés, brillants, presque laqués, mais c'est moins laqué que ne l'était évidemment une glycéro. Alors attention, phase aqueuse, eh ben ça ne veut pas dire absence totale de COV. Le législateur a imposé un étiquetage environnemental. Vous savez, comme tous les appareils, comme tous les produits maintenant, pour tous les produits donc là de construction avec une graduation, il y a A+. Vert foncé, A, vert clair, B, orange, C, rouge. Vous aurez compris qu'évidemment, c'est plus nocif quand c'est rouge que quand c'est vert plus, enfin A+. Alors, il y a aussi des labels qui sont parfois plus ou moins contestés. Des labels écologiques, on va dire, c'est écolabel. NF Environnement et EcoCert. Alors regardez sur les pots de peinture quand même s'il y a ces labels. C'est quand même beaucoup mieux. Et puis maintenant, il vous reste à avoir du courage pour commencer à bien préparer les fonds, parce que je rappelle toujours que une bonne peinture, ça ne tient que
une bonne préparation.
Une bonne préparation. Éventuellement donc des couches d'après, éventuellement un enduit. Donc il faut vraiment bien préparer les choses.
Parfait. Christian, voilà. Vous restez avec nous. On va maintenant jeter un froid dans cette émission dans un instant.
Oui,
on
oui.
est d'accord.
D'ailleurs, il ne fait pas très chaud dans ce studio. On nous a préparé. Je pense que ça doit être l'hiver qui climatise le studio.
Et oui, bah, c'est justement pour pas qu'on tourne, en
voilà.
quelque sorte. Hein,
oui, c'est ça.
Pour qu'on reste comestible pour nos auditeurs.
Voilà.
Oui, parce que dans un instant, on va vous aider à bien conserver les aliments à la bonne température. Et forcément, réfrigération, surgélation, congélation. On va parler de tout ça. Est-ce que vous connaissez la différence entre la congélation et la surgélation?
Est-ce que ça existe encore?
Les étoiles,
hein, c'est pas seulement dans le ciel.
Allez, on en parle dans un instant. Vos questions au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison. RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison avec Christian Pesset qui est à mes côtés jusqu'à 8h. Vos questions, 3216, l'appli RMC Direct Studio, vous nous laissez votre numéro de téléphone, on vous rappelle dans la foulée. Christian, on va maintenant avoir des conseils pour bien conserver
oui,
nos aliments.
Oui, tout à fait, parce que évidemment avec les températures qu'il fait depuis quelques semaines et qu'il va sûrement continuer à faire, eh bien nos frigos sont très sollicités, nos congélateurs aussi, on ne s'en rend pas forcément compte, et évidemment c'est une question de santé. Hein,
bien sûr.
Il faut que les aliments soient conservés à bonne température. Alors on a avec nous Célestin Melloul, bonjour.
Bonjour Christian.
Vous êtes déjà venu dans cette émission par le passé, vous êtes responsable formation chez Liber. Liber, c'est une marque internationale. Hein,
une marque internationale, leader sur le marché européen, sur les produits premium, sur les produits haut de gamme.
Voilà, on est plutôt sur le haut de gamme. Alors justement, on en parlait un instant, est-ce qu'on peut faire un petit cours de rattrapage là, réfrigération, surgélation, congélation. Avant, on avait le petit réservoir, enfin la petite partie supérieure du frigo.
On avait même le freezer.
On appelait ça freezer.
Le freezer.
Vous voyez, là-bas, cette partie supérieure.
Tiens, mets-le dans le freezer, voilà. On disait.
Alors, c'est quoi? On n'a plus que réfrigération et congélation.
Alors, dans le marché du grand public, c'est-à-dire notre marché à nous, on a effectivement dû à la réfrigération qui est du froid positif, qui permet de conserver les aliments à court terme.
Et le froid négatif, c'est la chaleur?
Le froid négatif, la température négative, c'est ce qui permet de conserver les aliments à long terme.
Ah oui.
Alors, quand vous me parlez de surgélation, c'est une technique qui est utilisée par les fabricants de surgelés.
D'ailleurs, on parle de surgelés.
Bon, il y a une technique dont je peux vous citer. On va amener les aliments on va les stocker dans une pièce à soit plus 63 degrés.
Ah oui.
Et ensuite, on les mettra dans une autre pièce à moins 18 degrés. Et on va créer un choc thermique.
D'accord.
Et on va donc, congeler de manière très rapide, pendant 200 minutes. Ça dure 200 minutes en général, 24 heures.
Mais ça, c'est une affaire de
professionnels. De
mais ce qu'on appelait autrefois la surgélation avec...
C'était un lapsus.
C'était quoi? C'était peut-être jusqu'à moins 18?
Pour congeler un aliment, c'est moins 24 minimum.
Ah oui, d'accord.
Moins 24 minimum. À moins 18 degrés, on conserve les aliments déjà congelés.
D'accord, c'était ça qu'on appelait en fin de compte, la surgélation. Et il y avait des étoiles.
Alors, bien sûr.
Il y en a encore?
Il y a toujours des étoiles. Bon. Il y a toujours des étoiles. Oui. Donc, une étoile, c'est moins 6 degrés. Donc, on a moins 6 degrés par étoile.
C'est pour faire les glaçons, ça.
Des glaçons.
Ça, c'est le freezer,
les Esquimaux.
Oui, c'est ce qu'on appelle freezer. En général, c'était moins 2 étoiles.
D'accord.
Donc, on avait 2 étoiles, donc ça faisait moins 10 degrés. À moins 18, on conserve les aliments.
Chaque étoile, c'est 6 degrés, c'est ça?
Moins 6 degrés.
Ah, moins 6 degrés. Bah voilà, on a appris quelque chose.
Christian, je vous pose une question. 4 fois moins 6.
4 fois moins 24.
Moins 24, on congèle à moins 24 degrés.
D'accord.
Minimum, c'est moins 24 degrés. Certaines marques, dont la nôtre, on descend à moins 32 degrés. Donc ça veut dire qu'on congèle très rapidement et à cœur l'aliment. L'objectif.
Ah, vous avez 5 étoiles et demie.
On pourrait avoir 5 étoiles et demie, on a pas envie de le dire, mais on congèle jusqu'à moins 32 degrés. À moins 32 degrés, ce qui veut dire qu'on congèle très rapidement l'aliment et à cœur, ce qui permet de conserver les oligo-éléments et de conserver plus longtemps le produit en congélation.
Mais alors, il faudrait du moins 5 étoiles pour véritablement être capable de congeler, parce que sinon, on est juste capable de conserver ce qui est déjà surgelé, non?
Donc, on congèle à moins 18.
Moins 18.
À 3 étoiles.
3 étoiles.
On congèle à moins 24. Et nous avons la chance d'avoir une technologie qui fait que nos produits descendent jusqu'à moins 32 degrés
Mais alors, ça permet quoi? Excusez-moi, je vous coupe, mais le moins 32 permet quoi par rapport au moins 24?
Ça permet de congeler beaucoup plus rapidement l'aliment et de le congeler à cœur. Donc, ça permet ensuite de conserver les aliments plus longtemps dans le congélateur et tout en conservant les vitamines.
D'accord. Ça se conserve combien de temps?
Ça va dépendre des aliments.
Oui, mais globalement, quoi. Est-ce qu'au bout d'un an, il faut dire, allez hop, je vire tout ce qui est dans mon congélateur?
Écoutez, je vais vous dire, vous pouvez parfaitement manger des aliments qui ont 2 ans. Seulement, il n'y aura plus de vitamines, il n'y aura plus rien à l'intérieur. Donc, ça va dépendre des aliments.
Un aliment qui est congelé s'abîme malgré tout avec le temps.
Un aliment qui est congelé ne s'abîme pas, mais un aliment qui est congelé perd de ses vitamines à partir d'un certain moment.
D'accord.
Donc juste, il y a des limites. On va prendre la viande, on va se tuer entre 6 mois et 12 mois, en fonction du type de viande que l'on va avoir. Vous pouvez très bien consommer un aliment qu'on aurait dû consommer au bout de 6 mois, mais il aura plus de...
Sur un plan gustatif, ça change ou pas?
Il n'y aura plus rien.
Ah, il n'y aura plus rien.
Il n'y aura plus rien. Si l'aliment doit être consommé dans les 6 mois, si vous le consommez dans les 12 mois, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de
goût.
La viande sera blanche.
Ouais. Donc la règle, c'est de dire qu'on congèle, garde 6 mois.
Donc ça va dépendre des aliments. Ça va dépendre des produits que vous allez congeler.
Alors par exemple?
Si vous prenez de la viande, on va être sur une période de 6 à 12 mois maximum en fonction du type de viande. Si on prend des champignons, on va y aller à 12 mois.
D'accord.
Vous voyez? Oui. Donc ça va vraiment dépendre de...
Oui, il y a des aliments qui vont mieux supporter la durée dans la congélation,
Qui vont mieux hiberner.
D'accord. Alors... Moi, je suis stupéfait quand je regarde les catalogues, y compris les vôtres. Alors, il y a du top. Il y a le frigo bas. Il y a une plaque, une porte en haut, une porte en bas, des portes qui s'ouvrent. À quoi ça sert, tout ça? Pourquoi? Ça présente vraiment un intérêt?
Christian, ça va dépendre des besoins du consommateur.
Oui, c'est ça.
Alors, effectivement, il y a des termes assez professionnels. Le table top. Vous savez ce que c'est qu'un table top?
Un table top, c'est le petit avec simplement la table au-dessus, non?
Je pense que vous avez de l'expérience, Christian. Effectivement, un table top, c'est un appareil qui fait en gros 120 litres maximum, qui se met à la même hauteur qu'un plan de travail à 85-90. Ensuite, on va passer sur du réfrigérateur.
Avec le compartiment en haut?
Pas systématique. C'est ce qu'on appelle un
double. Ah oui, le réfrigérateur.
Un réfrigérateur, c'est qui permet qu'il y ait un froid positif. Et après, on va passer sur un double porte avec le congélateur sur le dessus.
Oui.
Et on aura le combiné avec le congélateur sous le dessous. C'est d'ailleurs le marché qui se développe le plus. Le combiné actuellement est un produit qui se développe énormément sur le marché.
Et les frigos américains, là, il y avait une grande mode. J'ai l'impression que ça baisse un peu, non? Est-ce que c'est parce que les intérieurs sont pas toujours à la taille du bientôt? Toute la cuisine?
Je crois que le réfrigérateur américain est un réfrigérateur qui correspond à un certain type de clientèle. Je crois que c'est plutôt sympathique pour l'apéritif, puisque vous avez le distributeur de glace. reste, et puis ça reste d'eau. L'inconvénient de l'américain, c'est qu'il a une partie congélateur qui ne fait en général que 40 cm.
Ouais, exact.
Et que le réfrigérateur fait 60. Ouais. Donc on est plutôt aujourd'hui sur des produits qui sont ce qu'on appelle chez nous des side-by-side, avec un réfrigérateur qui fait 60 et un congélateur qui fait 60, un véritable congélateur. Donc deux véritables.
D'accord. Ça prend plus de place.
120 cm, 121 cm.
Comme un frigo américain, en fait, c'est ça?
Le frigo américain, bon, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, hein, mais c'est.
Au moins les gens comprennent, c'est ça.
Le frigo américain, c'est un réfrigérateur un réfrigérateur qui va utiliser ce qu'on appelle du no frost. Le no frost, c'est un froid pulsé, un froid ventilé.
Oui. J'allais vous demander ce que c'était que le froid ventilé.
Le froid ventilé, c'est un froid sec. Ouais. Alors, quand on parle de froid, on parle de climat. On parle d'un taux d'humidité avec une température. Le taux d'humidité est important pour les aliments. Il faut savoir que les aliments sont constitués entre 45 et 95% d'humidité. Lorsque vous supprimez l'humidité, pensez au four vapeur. Pourquoi est-ce qu'on fait la cuisson vapeur? Parce qu'on veut conserver l'humidité des aliments.
D'accord.
Donc quand vous supprimez l'humidité des aliments, vous limitez la durée de conservation et vous supprimez un maximum d'oligo-éléments.
C'est-à-dire qu'on va le sécher en quelque sorte, en même temps qu'on le congèle.
On va le sécher. Et c'est la raison pour laquelle il est conseillé dans un no frost, un froid ventilé, d'emballer les aliments. Le problème lorsque l'on emballe les aliments, c'est qu'on les met dans un endroit confit, et l'aliment dégage des gaz. Et lorsqu'il dégage des gaz, il s'oxyde. Donc on va limiter la durée de conservation de l'aliment. Alors ça correspond à un type de clientèle. Nous, chez Liber, on ne considère pas que le no frost est vraiment un produit adapté au marché européen, bien entendu au marché français.
Donc il n'y a pas de ventilation dans les vôtres.
On a soit du froid statique dans les petites cavités, mais on a ce qu'on appelle du froid brassé, c'est-à-dire qu'on va avoir un brasseur d'air qui va mélanger cette température de 5 degrés avec un certain taux d'humidité. Et dans nos froids brassés, on a jusqu'à 65% d'humidité, ce qui permet de conserver beaucoup plus longtemps les aliments.
D'accord. Okay.
Et on a même une technologie spécifique qui permet encore de prolonger beaucoup plus la durée de conservation et de multiplier.
Mais c'est pas un peu du marketing tout ça entre nous?
Écoutez, vous savez,
franchement, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'effectivement, même si je suis un mauvais élève parce que j'ai un frigo tout à fait basique, en froid statique, comme vous dites, mais je pense que c'est aussi Christian Ricard le confirmera. C'est aussi une question de santé, parce que ça touche vraiment l'alimentation, ça touche quand même au plus intime de nos besoins. Et je crois qu'effectivement, ces systèmes, moi je les ai vus fonctionner, sont quand même très 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 efficaces. Les notions d'évolution, j'ai vu qu'il y avait des réfrigérateurs qui sont bactéricides, qui prétendent tuer les bactéries, ça existe? Ou ça, c'est effectivement du marketing?
Bon, je pourrais dire que c'est du marketing. Et effectivement, nous avons dans certains de nos réfrigérateurs et sur le marché de mes confrères font aussi ce type de produits, il existe des filtres antibactériques qui permettent de limiter le développement des bactéries
Est-ce que pour éviter les bactéries, faut pas surtout laver son frigo régulièrement?
Il faut nettoyer ça régulièrement.
On le fait pas, faut bien dire. L'autre jour, j'entendais dire sur une antenne, si j'ose dire, concurrente, qu'il fallait laver son réfrigérateur tous les 15 jours. Mais personne lave son frigo tous les 15 jours. Il faut le laver tous les combien?
Je pense qu'une fois par trimestre, c'est déjà une bonne chose.
Ça me paraît raisonnable.
Comment ça se nettoie un frigo, tiens?
Vous savez, vous prenez simplement de l'eau.
Parce que Christian fait ça au Karcher, c'est une bonne idée.
Christian est bricoleur.
Oui, Christian est bricoleur.
Je vais laisser.
Nettoyeur vapeur, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal aussi.
Mais bien sûr.
Non.
Je pense que vous prenez surtout pas des produits abrasifs, surtout pas.
Donc pas ce que je brite.
Surtout pas. Vous prenez de l'eau savonnée. Okay, vous prenez du vinaigre blanc, okay, et vous nettoyez tout simplement votre réfrigérateur. Alors, si vous avez la chance, comme nous le fournissons, d'avoir des cuves sans angle, facilement nettoyables...
Les recoins, c'est là où se logent toutes les saloperies.
Et moi, ce que je vous conseille, le jour où vous achetez un réfrigérateur, parce que n'oubliez pas que vous le prenez quand même pour 15 ans, 10 à 15 ans. En tout cas, les nôtres, c'est 10 à 15 ans. Il y a des accessoires qui sont amovibles, que l'on peut passer au lave-vaisselle, notamment les balconnets, dans lesquels on a souvent
dans
la porte, où on met le lait,
mettre ça au lave-vaisselle,
mettez-le au lave-vaisselle. On a toujours une place dans un lave-vaisselle. On a toujours une place.
Oui, de temps en temps, il faut le faire.
Est-ce que tout ça consomme pas de plus en plus d'énergie? Ou est-ce que c'est l'inverse?
Vous savez, vous connaissez le prix de l'électricité en France, le coût du kilowattheure?
Ça dépend.
Bon. C'est le pays le moins cher en Europe, la Bulgarie. Ouais. On est deux fois moins cher que l'Allemagne. L'Allemagne est aux alentours de 40 centimes. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15-20 centimes maximum.
C'est ça, de watts. Ce que j'allais vous dire. Autour de 20.
Il faut savoir que les fabricants sont vraiment poussés, et c'est une bonne chose, à limiter la consommation énergétique des produits. Alors, on se bat aujourd'hui. Nous avons des réfrigérateurs sur le marché qui consomment deux fois moins que certains produits il y a deux ans. Hein.
Il y a deux ans seulement.
Oui, il y a deux ans.
Oui, je parlais moi de mon frigo américain qui est dans ma cave parce qu'il ne rentrait pas dans les portes de mon appartement, de ma maison. Et vous me disiez que ça devait être un gouffre d'énergie.
Je vous ai cité un chiffre. Hein, je vous ai dit ce que ça vous coûte en euros.
Oui.
Ça vous coûte aujourd'hui 300-350 euros, Christian. Il faut le savoir.
D'accord.
Aujourd'hui, nous avons des réfrigérateurs en gros de près de 400 litres qui consomment à peine 10 euros par an. À peine 10 euros par an.
Ah oui.
À peine 10 euros.
Là, c'est vraiment...
Voilà.
Oui, je pensais qu'il était plus, tiens.
Oui, bien sûr. Et il faut que vous sachiez aussi que on nous demande... Enfin, l'étiquette énergétique va changer aujourd'hui. Vous avez du A+, A+, A3+, qui n'est plus très significatif.
Oui, parce que maintenant, on multipliait les plus. Alors,
A+, on est même à A3+, moins 20%, pour vous dire. C'est pas très... Le consommateur...
On va remettre tout ça à plat.
On va remettre tout ça à plat. Et les normes seront beaucoup plus strictes. Et je pense qu'on sera encore obligé d'améliorer la conception de nos produits.
Célestin, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent et qui vont faire des grandes courses là cet été? Ils chargent la voiture, ils achètent des surgelés. Et après, pendant peut-être des kilomètres, ils vont rouler. Les produits vont peut-être se décongeler. On parle de la rupture de la chaîne du froid. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent?
Prendre des sacs isothermes déjà, non?
Oui, vous allez prendre des sacs isothermes, mais si vous avez une température extérieure qui est extrêmement...
Qui fait 40.
Je vais vous dire, moi j'ai vécu...
C'est dangereux de recongeler des produits. On dit souvent, il faut pas recongeler un produit décongelé.
Ah, attendez, je vais vous expliquer. Il y a des normes aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autonomie des produits. L'autonomie d'un congélateur. Ouais. On dit un produit, il y a une autonomie, chez nous on va un congélateur coffre jusqu'à 5 jours pour vous dire.
C'est-à-dire 5 jours pendant lesquels il peut ne pas avoir d'alimentation électrique.
Il peut ne pas avoir d'alimentation électrique. On va sur les congélateurs coffre chez nous jusqu'à 5 jours, ce qui est assez
c'est énorme. Marquable,
mais c'est énorme. Énorme. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui on considère qu'un produit est décongelé à partir de moins 9 degrés.
Ah oui.
À moins 9 degrés, on considère.
Quand on l'achète dans le magasin, il est à combien? Moins 24?
Non, minimum. Il est à moins 18.
Il est à moins 18.
Il est à moins 18.
Quand je le prends dans le distributeur, là, enfin dans le.
À moins 18, moins 9 mois. Allez, moins
9 degrés. Dans le placard réfrigéré.
Dans le placard réfrigéré.
Dans l'armoire réfrigérée, on va
D'accord.
appeler ça.
D'accord.
Dans la vitrine réfrigérée.
Donc là, il descend à moins 9. Alors, à partir de moins 9, il est plus surgelé.
Alors, lorsque vous l'avez. Il est plus congelé.
Il est plus congelé, pardon, excusez-moi.
Je viens de perdre un quart d'heure, là.
Oh là là.
Et donc, quand il est plus congelé, qu'est-ce qui se passe?
Il faut savoir que lorsque le produit est arrivé à moins 9, moins 9 degrés, un produit qui a été cuisiné, on ne peut plus le recongeler. Il faut le consommer s'il est encore consommable.
Ah zut.
D'accord. Si vous avez congelé les cuisses
de... Mais pourquoi
de... Parce qu'il va y avoir un développement de bactéries.
Mais si on recongèle derrière...
Non, vous ne pouvez pas recongeler un produit. On ne peut pas tuer des bactéries sur un produit qui a été cuisiné. Un produit qui est cru, vous prenez les cuisses de poulet, votre produit a été...
Décongelé,
vous les cuisinez, vous tuez les bactéries, vous pouvez congeler le
produit. Peut, ah voilà, donc
D'accord.
il faut cuire et recongeler derrière.
Oui, mais vous ne pouvez pas recongeler un produit...
Un produit cru. On ne peut pas recongeler un produit cru.
Vous pouvez recongeler... Non, un produit cru, vous ne pouvez pas recongeler.
Même si je l'ai cuit derrière.
Oui, si, vous allez le cuisiner. Le produit cru...
Mais si je le cuisine, je peux le recongeler derrière.
Oui, il est cru, vous ne pouvez pas le recongeler.
Voilà,
mais si vous le cuisinez, vous pouvez le recongeler.
Mais le gros problème, c'est qu'effectivement, entre le magasin et chez soi, même avec un sac isotherme, on a assez peu de chances qu'il reste en dessous de moins 9.
Et puis, excusez-moi, mais moi, j'ai pas un thermomètre pour savoir à combien est mon paquet de surgelé dans le coffre de ma voiture.
Effectivement.
C'est compliqué tout ça, enfin, je veux dire.
Alors, on a aussi chez nous des technologies qui permettent d'accélérer le refroidissement de l'appareil. Que ce soit sur un réfrigérateur, on appelle ça du super cool, c'est-à-dire qu'on va baisser de 2 à 3 degrés la température du réfrigérateur. Lorsqu'on va ramener les produits qui sont à plus 15, plus 12, plus 15, on les met dans le réfrigérateur, ça va baisser plus rapidement la température dans le réfrigérateur. Lorsque vous avez des produits à congeler, vous avez une touche qui s'appelle le Superfrost. Sur nos produits, ça s'appelle Superfrost. Mmh. Dans votre marque, c'est un autre terme. Superfrost. Et là, on va descendre à moins 32 degrés.
D'accord. On revient dans un instant parce qu'on aimerait bien savoir combien ça coûte un bon
ventilateur.
Oui,
et puis voilà. Et puis,
voilà, pour conclure. Hein, parce que là, on fait, est-ce qu'on va faire affaire avec monsieur Célestin?
Je me demande.
Christian, je ne sais pas.
Non, il nous a fait tellement peur, là. On va tous avoir la dysenterie demain.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Non, mais c'est important de dire. En deux mots, que quand on achète des surgelés dans un magasin, il faut les acheter en dernier dans son corps.
On ne se rend pas trop compte.
En dernier, les mettre dans un sac et revenir le plus vite possible chez soi. Je crois que c'est le conseil de base à donner.
Voilà, c'est le week-end des experts. Comment bien conserver les aliments à bonne température? On en parle encore pendant quelques instants. Et puis juste après, vos questions maison au 32-16. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison. RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, c'est le retour du week-end des experts à la maison. Avant de retrouver vos questions au 32-16 et découvrir une appli, votre appli coup de cœur pour gérer le transfert de tous ses abonnements. Christian, oui. Avant tout cela, on va terminer sur la réfrigération, sur la congélation, sur la surgélation avec notre invité.
On a déjà dit beaucoup de choses, les précautions, le nettoyage, la rapidité que l'on doit appliquer pour quand on a acheté des surgelés en magasin. Je dirais dernier point, vous êtes du haut de gamme chez l'hiver, ça coûte combien en gros un bon réfrigérateur, congélateur alors, domestique, je vais dire classique.
Je vais prendre un exemple. Je vais prendre le combiné, qui est aujourd'hui un produit qui se vend, qui un des produits qui se vend le plus sur le marché.
Combiné, c'est quoi? Donc c'est
le congélateur en bas, le réfrigérateur en haut.
D'accord.
Donc on trouve tout sur le marché. Hein. Donc on peut avoir des combinés qui commencent à 250-300 euros, où on va avoir un froid statique, un thermostat mécanique. Donc on va pas pouvoir régler au degré près la température de l'appareil. Ensuite, on va avoir du no frost. Hein, du froid ventilé, du total no frost, qu'on appelle du total no frost, où on va voir, ce qui est assez exceptionnel pour le congélateur, on va pouvoir congeler sans givre les produits. Par contre, on va dessécher les produits.
Et là, on est à quel prix?
Et là, on va situer aux alentours, à partir de 500 euros.
D'accord.
Ensuite, vous allez tomber sur 750 euros sur un produit qui sera en air brassé dans le réfrigérateur et en no frost dans le congélateur. Et puis, si vous voulez vraiment des produits haut de gamme qui permettent de conserver les produits beaucoup plus longtemps dans un réfrigérateur, on va se situer au-dessus de 1000 euros.
Parfait. Très bien, merci.
Merci beaucoup.
Merci Célestin Meloun. Je rappelle, vous êtes responsable formation chez Liber.
Merci Christian, merci François.
Merci beaucoup, à bientôt. Nous avons maintenant Robert au 32-16 avec nous. Bonjour Robert.
Bonjour.
Bonjour
bienvenue
Robert.
Bienvenue sur RMC Robert, on vous écoute.
Oui, moi je vous appelais pour mes radiateurs électriques flûte caloporteur. J'en ai un particulier qui s'emballe à fond et il n'y a pas moyen de le régler. Et je voulais savoir si vous aviez une solution pour ça.
J'ai pas beaucoup de solutions, si ce n'est... Vous savez, ça coûte plus très cher un radiateur caloporteur aujourd'hui, on peut se demander. Il a quel âge?
15 ans.
Alors 15 ans, changez-le, parce que de toute façon, changer le thermostat, ça ne sera pas possible sur ce type de matériel. Et puis encore une fois, même dans des premiers prix, il y a aujourd'hui des matériels avec des thermostats qui sont extrêmement fiables et puis surtout qui peuvent être connectés, c'est-à-dire qui peuvent être connectés soit avec des systèmes radio, soit commandés et pilotés avec du courant porteur, avec du fil pilote, et qui peuvent à ce moment-là être avec une gestion centralisée.
Robert, vous en avez combien des radiateurs?
J'en ai 7 là sur le...
Et ça coûte combien,
7 radiateurs? 7, il y a des radiateurs qui commencent à 80 euros, suivant la puissance, mais à puissance 1000 watts, je parle.
Allez, à caloporteur, 80 euros?
Oui, mais oui, il y en a bien sûr. À 100, 150 euros, on a déjà du beau matériel.
D'accord.
Ne jamais se faire avoir avec des radiateurs
donc
trop chers.
Donc on n'est pas obligé de mettre 1000 euros par...
Non, on n'est certainement pas. Ne mettez jamais 1000 euros dans un radiateur. Là encore, je vais me faire des copains, parce que à chaque fois que
donc
je dis ça...
Donc on va dire que pour un budget maxi de 1000 euros pour 7 radiateurs, Robert sera bien.
Ah non, pas 1000 euros pour 7 radiateurs. On va dire...
100 euros.
Oui,
si
mais 100 euros,
ça fait 700.
Oui, oui,
donc
c'est
je
ça.
Prenais la marge
voilà.
De 1000.
Si, mais là, on est quand même sur du basique. Hein. Mais allez, à 2000 euros pour l'ensemble, on va avoir vraiment quelque chose de très bien avec un pilotage centralisé.
Parfait. Autre auditeur maintenant, ou qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Dites-nous, notre producteur Patrick est là. Bonjour Patrick.
Bonjour Christian, bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue Patrick sur RMC.
Merci. Voilà, je suis en train d'acheter un appartement. Je vais avoir quelques travaux à faire, genre retirer du carrelage, remettre du carrelage, faire une salle de douche. Il me semble que dans une de vos précédentes émissions, vous aviez conseillé de prendre une assurance, parce que je vais faire ça en grande partie moi-même. Je vais faire intervenir quelquefois des gens en auto-entrepreneur, pardon. Donc je voulais savoir si ça valait la peine de
prendre une assurance. Ouais, je pense que vous parlez de l'assurance dommage ouvrage. Oui. Donc l'assurance dommage ouvrage ne concerne que ce qui est couvert par la décennale, c'est-à-dire le gros œuvre, globalement, enfin tout ce qui dont le défaut, je dirais, entraînerait le fait que la maison ne serait plus habitable. Donc ça ne vous concerne pas, et c'est obligatoirement une assurance qui vient en relais de l'assurance décennale du professionnel. Donc ça exclut toute opération que vous feriez par vous-même. Alors donc vous ne pouvez prendre aucune assurance qui vous couvrirait contre vous-même. Vous savez, il y a un principe fondamental, nul ne peut se plaindre de ses propres turpitudes, hein, pour prendre un mot juridique. Okay. Donc là-dessus, il n'y a rien à faire. En revanche, si vous faites intervenir en plus des bénévoles entre guillemets chez vous, il y a deux choses à avoir. C'est avoir une bonne assurance multirisque pour être sûr que et notamment incendie, que s'il y avait des problèmes et que vous fassiez brûler la maison du voisin, vous n'ayez pas quelques soucis, en tout cas pour le remboursement de la vôtre. Et puis après, globalement, je veux dire, il faut prendre des professionnels. Hein. Faites appel à des professionnels. Ça ne souffre pas la médiocrité, les travaux dans la maison. Et des gens bien assurés eux-mêmes.
Christian, pour terminer votre coup de cœur et pour nous expliquer votre coup de cœur de ce samedi matin, nous avons un invité au téléphone. Il s'agit de Philippe de la Chevannerie,
oui,
président et fondateur de Papernest.
Papernest, il s'agit d'une application et d'un site qui permet le transfert, on va dire, des contrats dans la maison. Alors nous l'avons en ligne. Bonjour monsieur de la Chevannerie.
Bon. Bonjour,
enchanté. Bonjour. Alors, racontez-nous rapidement d'où ça vient cette idée et si ça couvre vraiment tous les contrats. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, en quelques minutes, vous allez nous épater là, on peut obtenir un service de transfert de tous les contrats, abonnements, etc.
Eh ben absolument. Donc, Papernest, c'est la solution en fait qui va permettre à toutes les personnes qui emménagent de transférer, souscrire, résilier tous les contrats, donc l'électricité, le gaz, l'assurance habitation, la box internet, la redirection de courrier, les déménageurs, le mobile, etc. On fait tout ça en quelques instants pour vous. Et en fait, vous allez sur notre plateforme, donc papernest.com. Vous donnez vos informations comme le nom, le prénom, l'adresse.
D'accord.
On fournit les offres auxquelles vous êtes éligible. Vous choisissez. Et ensuite, on s'occupe de tout souscrire pour vous. C'est 100% centralisé. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Ça se fait très rapidement. En moins de 10 minutes, vous allez pouvoir souscrire jusqu'à 4 ou 5 contrats différents. Plus, si vous voulez, au lieu de prendre 6 heures vous-même. Et c'est 100% gratuit. En fait, on est rémunéré par les fournisseurs.
D'accord.
À chaque fois qu'on
a. Mais alors, si moi je suis chez EDF, je veux rester chez EDF, vous ne faites rien à ce moment-là.
Alors, EDF, ça fait partie des rares fournisseurs d'énergie.
Non, mais je dis EDF, allez, Direct Énergie.
Vous êtes chez Engie, vous pouvez rester chez Engie. C'est le cas pour une bonne partie de nos partenaires. Voilà. Après, il y a pas mal de personnes qui souhaitent aussi optimiser leur contrat, parce qu'on peut leur conseiller, s'ils le souhaitent, des contrats plus adaptés ou moins chers, mais pas forcément. Et donc, on a autant de personnes qui transfèrent que de personnes qui désirent changer de fournisseur.
D'accord. Alors donc, il faut aller sur Internet et taper.
Exactement.
Papernest, papernest.com.
Exactement. Exactement.com.
Je pense que ça me semble intéressant. Bon, là, évidemment, derrière, il y a la proposition de nouvelles offres, quoi. J'imagine, effectivement,
oui,
ça a
été dit. Oui, c'est-à-dire que vous, après, comment vous vivez là-dedans, enfin, avec ce service, Philippe?
Nous, c'est très simple. À chaque fois qu'on transfère ou qu'on souscrit un contrat auprès d'un fournisseur, on reçoit une commission de la part du fournisseur.
D'accord.
En fait, il nous rémunère pour s'occuper de toutes les démarches pour son client. En fait, on le fait souvent mieux qu'eux ne peuvent le faire.
Mais alors, la mauvaise affaire pour vous, c'est quelqu'un qui ne voudrait changer aucun de ses contrats. Vous l'aidez quand même?
Non, on l'aide quand même et on reçoit aussi de l'argent, même s'il transfère certains contrats.
Ah d'accord. Ça je ne savais pas.
Parce que vous avez fait le geste de conserver un client.
Conserver un client, c'est ça.
Exactement. Les clients qui déménagent sont des clients qui ont tendance à beaucoup changer et donc pas mal de fournisseurs désirent justement garder leurs clients à ce moment-là et donc ils savent que sur notre plateforme ils peuvent le faire. Et
Philippe, il y a des saisons justement où vous êtes plus sollicité que d'autres.
Alors, en ce moment, on peut l'imaginer, non?
Exactement. Alors là, c'est le tout début de la saison. Ça va commencer à exploser en août et en septembre. En fait, entre juillet et fin septembre, il y a la moitié des déménagements des Français qui sont sur ces quelques mois. Donc, il y a une très forte saisonnalité.
Donc, le mois d'août, pour vous, c'est pas trop les vacances?
C'est pas du tout les vacances, exactement.
Il y a beaucoup de monde qui travaille chez vous? Qui fait
alors,
ça?
Nous, absolument. On est un peu plus de 350. On s'est créé il y a un peu moins de 4 ans.
Ah oui?
Donc voilà, on a pas mal grossi. Donc on a un peu plus de 350 personnes qui servent. On a eu plus de 300 000 clients. On a fait économiser plus de 2 millions d'heures aux Français, justement, et aux Européens d'ailleurs, en s'occupant de toutes leurs démarches pour eux.
Ah oui, pas 2 millions d'euros, hein, 2 millions d'heures, en fait.
C'est 2 millions d'heures, mais ouais. Beaucoup plus en euros. Beaucoup plus, on a fait économiser.
Vous êtes très fort, hein, parce que pour calculer le million d'heures économisées, ça, vous avez un compteur là, franchement, c'est impressionnant, hein. Merci en tout cas, merci.
Merci, je rappelle, c'est papernest.com.
Bon, Christian.
Oui.
Eh bien voilà. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera là.
Oui.
Oui. Et puis, dans un instant sur RMC, Christian Eka sera là. Notre rendez-vous Forme Santé. Puis, je vous rappelle l'événement hein, entre 9 et 10. Nous recevrons la porte-parole de Facebook France. Elle sera avec nous. À quoi sert Facebook, tiens, aujourd'hui? Eh bien, on lui posera la question.
Moi, je
sûr, vos réactions au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite. Donc, après la météo et les infos, on revient.